Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Je suis heureuse de vous retrouver après ces longues vacances. Peut-être certains en profitent-ils encore. Mais tandis que le nord de la France commence à grelotter, ici, le soleil brille. Et de quoi peaufiner nos bronzages. Que s'est-il passé depuis notre dernier échange? Eh bien, ce fut, on ne peut pas le dire, le contraire, un été compliqué, politiquement. Marqué par la liesse des Jeux, rassembleurs, par un climat en surchauffe partout dans le monde et particulièrement pour Mare Nostrum. Au sommaire de ces news de septembre 2024, un 6 sujets. Nous avons un Premier ministre, le feuilleton se poursuit sur l'A69 et prédit que les choses ne se passeront pas simplement. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion d'entendre bientôt M. Frost. La détention de Paul Watson, la préparation de Cali, la réunion mondiale pour la biodiversité et des assises à La Rochelle et en Méditerranée en surchauffe pour parler de la biodiversité. Volera-t-on les nuages? La montée des eaux se confirme dans le Pacifique. Enfin, nous avons un Premier ministre. Qu'importe qu'il soit de droite ou de gauche, c'est un grand négociateur. Non, redevenons sérieux. Les vacances sont finies. Je ne voudrais pas ici pasticher un festin à venir, comme nous le promet la pub Twixt. Mais rappeler à tous ceux que l'écologie intéresse, hein, ce qu'a fait Michel Barnier. C'est quand même la première fois qu'un ministre de l'Environnement est nommé Premier ministre. Et parmi les chantiers impératifs qu'il va trouver sur son bureau se trouve entre autres le budget accordé à la transition écologique, le plan national d'adaptation au changement climatique et la grande loi de programmation énergie-climat. Et ce budget 2025 aura valeur de test, puisque pour l'instant, dans le projet de budget 2025, qui n'est pas le sien, plusieurs grands engagements pour la transition énergétique ou la biodiversité sont piétinés. Baisse de 35% des budgets de l'ADEME, chute de 60% du budget du Fonds vert, rabotage de 25% du budget de la Stratégie nationale pour la biodiversité. Alors, comment Michel Barnier va-t-il se saisir de la transition écologique? Les écologistes du Parti vert au sein de NPF ont plutôt mal accueilli sa nomination. Ils l'ont jugé déplorable sur le plan démocratique, selon les termes de leur secrétaire national Marine Tondelier. Mais pour autant, ses passages au ministère de l'Environnement il y a 30 ans, de 1993 à 1995, et plus récemment au ministère de l'Agriculture, de 2007 à 2009, n'ont pas laissé forcément que des mauvais souvenirs aux défenseurs de l'environnement. Le 2 février, il a fait voter la loi du 2 février, qu'on appelle la loi du 2 février, pardon, sur la protection de l'environnement, qui a consacré ses principes généraux, parmi lesquels le principe de précaution. Il a beaucoup contribué au progrès du droit de l'environnement. Et il fallait être un Européen et convaincu de l'enjeu écologique pour défendre ses principes. C'est aussi à lui que l'on doit la Commission nationale du débat public, le CNDP, ou le principe pollueur-payeur. Bien sûr, vous me direz, ces principes ne sont pas toujours appliqués. Mais en tout cas, on lui en doit l'initiative. Ensuite, il a su résister à certaines pressions. L'ONG Génération Future, par exemple, qui n'est jamais tendre pour les gens qui sont au pouvoir, a de son côté rappelé qu'il avait su résister aux pressions en tant que ministre de l'Agriculture, notamment sur les pesticides, et qu'il avait été le premier à ouvrir le ministère aux associations. Vendredi 6 septembre 2024, deux écureuils ont chuté des arbres de la ZAD de la Calarbre à Seix dans le Tarn suite à l'intervention des gendarmes venus les déloger. Vous vous souvenez, c'est ce feuilleton de la 69 que nous poursuivons. Blessés, ils ont été hospitalisés. Ils faisaient partie des derniers militants encore sur place après l'évacuation musclée du 30 août. Les arbres centenaires, objet d'une opération de protection qui dure depuis plusieurs mois maintenant, resteront-ils debout? Tout fait croire le contraire. Et Jean-Olivier, qui est co-président des Amis de la Terre Midi-Pyrénées, voit dans cette opération un flagrant délit de destruction de la biodiversité, accompagné par les forces de l'ordre. L'association a alerté en urgence le procureur et l'OFB, l'Office français de la biodiversité, du fait que les interventions en cours étaient illégales du point de vue de la biodiversité. En vain. L'arrêté préfectoral de mars 2023 autorisait les travaux du chantier de l'A69, mais pourtant, ils interdisaient l'abattage des arbres dans les secteurs identifiés comme étant à enjeu écologique fort. Parlons maintenant de Paul Watson. La détention au Groenland de Paul Watson, canadien de 75 ans, capitaine des navires de l'association Sea Shepherd et défenseur des baleines, a été prolongée de 28 jours. Il est toujours menacé d'extradition au Japon, où il risque soit 15 ans d'emprisonnement et même la peine de mort. Une audience a été fixée au 2 octobre prochain. Pourtant, depuis 1971, Watson se bat pour interdire la chasse à la baleine à travers le monde. Il a été parmi les premiers à entrer dans les rangs de l'association Greenpeace, en tant que membre de l'équipage et skipper, puis en tant que membre du conseil d'administration. Il dit même en être le fondateur. Une affirmation qui est parfois contestée, Paul Watson est convaincu de la nécessité de mener des actions directes, ce qui entre en conflit parfois avec la philosophie de non-violence qui est prônée par Greenpeace. Mais quand en 2013, Le Figaro fera un bilan de son activité, nous saurons que sur les 40 dernières années, outre 11 bateaux coulés, 10 navires éperonnés, on compte 3600 baleines qui ont été sauvées, ainsi que des dizaines de milliers de phoques, de dauphins, de thons et de requins. Faisant respecter la convention baleinière, Watson refuse de reconnaître au Japon le droit à tuer pour l'expérimentation scientifique. Et son avocat dément les faits qui lui sont reprochés, à savoir conspiration d'abordage avec blessure et dégradation de biens privés. La France soutient Watson. Le député des Côtes d'Armor, Hermé Berville, qui était le secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité du gouvernement démissionnaire, a déclaré « La libération de Paul Watson est une nécessité, comme l'est la protection de la biodiversité marine. Le défenseur des cétacés ne doit pas être extradé », a-t-il ajouté. Le 3 août, une manifestation a eu lieu en son honneur à Montpellier. Nous allons beaucoup parler de biodiversité dans le semestre qui vient. Alors, longtemps oubliée ou sacrifiée au réchauffement climatique, la disparition des espèces et la protection de la biodiversité s'imposent désormais. Une grande réunion des pays du monde, la COP16, se tiendra à Cali, en Colombie. On en a un peu parlé, mais vous n'avez pas fini d'en entendre parler avec moi. Cette COP interviendra près de 2 ans après l'accord historique qui a été conclu lors des dernières négociations en 2022 à Montréal et qui promettait de préserver 30% des terres et des mers de la planète d'ici 2030 et que le Parlement européen vient de ratifier. Accueillir cette COP16 représente une magnifique opportunité pour l'un des pays les plus riches en biodiversité du monde, souligne Susana Muhammad, qui est ministre colombienne de l'Environnement et du Développement. Elle ajoute « Cela envoie un message de l'Amérique latine au monde sur l'importance de l'action climatique et la protection de la vie ». Ajoutons, comme l'a souligné le secrétaire exécutif de la CDB, que la Colombie collabore avec les peuples autochtones et les communautés locales et est à l'avant-garde, et cette-ci, la Colombie, est toujours à l'avant-garde de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité. Encore marquée par la guérilla des FARC, la Colombie a placé cette COP sous le signe de la biodiversité et de la paix. Le pays pense que pour compenser l'économie de la coca, développer le tourisme communautaire, associé autochtones et biodiversité, permettrait d'atteindre la paix. Cette COP sera l'occasion donc pour les pays signataires également de montrer leurs engagements en présentant leurs stratégies et en plans d'action nationaux pour la biodiversité. Et à La Rochelle, du 18 au 20 septembre, à l'initiative d'Idealco et de l'Association des Écomères, vont se dérouler les 14e assises nationales de la biodiversité. L'occasion, pour les curieux français, de découvrir comment œuvrent collectivités, privées, associations, pour améliorer la place de la nature dans leur quotidien. Les initiatives en préparation de Cali vont être mises en commun. Nos prochaines émissions jusqu'au 15 octobre seront donc consacrées à ce thème. On s'en préoccupe moins que le climat, comme on l'a dit, mais d'elle dépend notre nourriture, l'état de nos mers, de nos forêts, le socle de notre vie finalement. Tandis qu'au niveau national, il convient d'identifier et de lutter contre tout ce qui l'a détruit, de comprendre ce qu'il faut sauvegarder dans les savoirs autochtones par hasard. Par exemple, au niveau local, il faut vite comprendre comment fonctionne la nature pour la préserver. En termes de biodiversité, voilà un exemple qui va vous parler. La chaleur de la mer Méditerranée cet été, par exemple, elle a encore battu tous les records avec jusqu'à 30 degrés, soit un niveau comparable aux eaux tropicales des Caraïbes. Alors pourquoi une telle surchauffe? Depuis le mois de juin, une masse d'air très chaud concerne les régions méditerranéennes. Conséquence, mortalité, modification des écosystèmes, les gorgones, les posidonies. Tout cela est en train de mourir à une vitesse grand V. Invasion d'espèces exotiques, poisson-lion, poisson-lapin qui dévore les posidonies, crabe bleu, mais surtout réservoir d'énergie. Il faut voir d'ailleurs sur Google et dans le Midi Libre de lundi 9 septembre l'interview de Alex Roumaniac, qui est le président de Predict et qui nous montre à quel point la Méditerranée et sa chaleur devient un terrible réservoir d'énergie que l'on va retrouver dans tous les épisodes que l'on n'appellera plus dorénavant Sévenol, enfin dans peu de temps, mais que l'on appellera bientôt uniquement Méditerranéen.
Après des semaines de canicule, la France se prépare à une vague d'orage.
8 départements sont en alerte, orages violents et pluies, inondations. 80 à 100, voire 150 mm de précipitations sont attendus localement sur l'arc méditerranéen. C'est l'équivalent de plus d'un mois de pluie et ce phénomène a un nom. On parle d'un épisode méditerranéen. Il se produit généralement lorsque la température de la mer est chaude, mais d'autres facteurs sont aussi à prendre en compte. C'est ce que nous explique Frédéric Nathan, il est ingénieur prévisionniste à Météo France.
C'est d'abord la situation météorologique qui joue, quoi. C'est-à-dire que le fait que la Méditerranée soit chaude n'entraîne pas obligatoirement des épisodes méditerranéens. Il faut qu'il y ait une situation météorologique qui soit adaptée. C'est-à-dire l'arrivée d'air froid d'altitude, qui là provient du sud de l'Islande, qui arrive sur l'ouest, qui glisse le plus souvent jusqu'à l'Espagne et qui rentre en confrontation avec cet air très chaud méditerranéen. L'épisode méditerranéen, c'est quand on commence à avoir des cellules stationnaires, c'est-à-dire des orages qui durent assez longtemps et qui donnent de forts cumuls de pluie. Donc à partir de seuils de localement plus de 100 mm, on peut estimer que c'est un épisode méditerranéen. Mais c'est un épisode assez classique malgré tout, orageux d'été, qu'on a déjà vécu par le passé, le 9 août 2018, en 2006, un épisode en 2010, au mois de juin, donc ça arrive de temps en temps.
Parlons maintenant de voleurs de nuages. J'ai vu apparaître l'expression pour la première fois dans les presses régionales. Alors que la possibilité de respecter les échéances de neutralité carbone s'éloigne chaque jour davantage, malheureusement, les projets de géo-ingénierie visant à contrôler le climat se multiplient. Faire pleuvoir, détourner la chaleur du soleil, capter le CO2. Ces initiatives sont pourtant porteuses de risques irrévocables. De plus en plus, les services météo mondiaux doivent intervenir d'ailleurs pour juguler ce qui pourrait devenir de graves conflits liés à la géo-ingénierie. Face à l'urgence de résoudre le problème climatique, la solution taboue commence à avoir de nouveaux droits de cité. Alors, quelques exemples. Le 4 juillet 2018, alors que l'Iran fait face à une grave sécheresse suspicieuse, le général de brigade Golan Reza Jalali, commandant de la défense passive iranienne, déclare que le changement climatique en Iran est suspect, ajoutant « Israël est un autre pays de la région, ont des équipes conjointes qui travaillent à faire en sorte que le nuage qui entre dans le ciel iranien soit incapable de déverser la pluie ». Le 15 et 16 avril 2024, des déluges de pluie s'abattent sur une grande partie des Émirats arabes unis, rappelez-vous. Immédiatement est dénoncé l'ensemencement des nuages, car depuis 2017, la ville ensemence ces nuages. Des avions dispersent sur les nuages, effectivement, du sodium, de l'iode et du dioxyde de carbone pour provoquer de la pluie artificielle. Et bien finalement, là encore, il faudra un démenti des services météo et des images satellites pour prouver que la cause de ce déluge était un énorme nuage. En septembre 2024, donc très récemment, le mois dernier, des viticulteurs à Carpentras révèlent enfin qu'ils n'ont pas hésité à prévenir, grâce à cette technique, des giboulées de grêle et qu'ils l'ont utilisée. Alors, ces tentations qui risquent de se multiplier sont-elles sans risque? Ces dernières expérimentations, menées parfois hors laboratoire et sans aucun cadre de gouvernance internationale, inquiètent les scientifiques. Le concept de géo-ingénierie est en train de passer du statut d'idée marginale à celui de sujet de débat intense dans les coulisses du pouvoir. L'ensemencement de nuages est déconseillé puisqu'il laisse des traces de iodure d'argent sur les sols, la végétation et bien sûr dans la santé des hommes. Les États-Unis nous assurent qu'on ne peut voler les nuages, mais de plus en plus se dessine la nécessité d'une convention mondiale pour réglementer l'atmosphère. Et dans les enceintes militaires, le débat devient sérieux. Nous y reviendrons en novembre, au moment de la COP Climat. De plus en plus, la surveillance sur les risques d'incendie progresse. Alors, un exemple qui va vous sembler peut-être très parcellaire, et pourtant il est important. Des agents de la Défense des Forêts contre les incendies, la DFCI, de l'Office national des forêts, réalisent chaque semaine des prélèvements dans la garrigue du Gard pour évaluer leur teneur en humidité. Des végétaux qui seront ensuite analysés pour contribuer à évaluer le risque incendie dans le secteur. Près de Conquérac, dans le Gard, ce sont des prélèvements qui sont réalisés chaque semaine sur l'un des trois sites de prélèvement des agents de la défense des forêts. Deux essences en particulier, le romarin et le genévrier, sont ici récoltés. Le romarin a des racines qui sont très proches de la surface, donc il réagit très vite en cas de perturbation, c'est-à-dire en cas de sécheresse, explique Eric Thomas, qui est un agent de l'équipe des FCI. Le genévrier, par contre, a des racines beaucoup plus profondes. Il réagira donc beaucoup plus tard. Donc des prélèvements, mais aussi des photos, des observations sont également réalisées sur la mortalité des végétaux. Une dizaine de plantes témoins sont évaluées avec une grille d'étalonnage. Les relevés de température de pluviométrie complètent les données qui vont servir à déterminer le risque incendie. Pesés un à un, les végétaux sont placés dans une étuve. Ils vont y rester pendant 24 heures à 60 degrés, explique Gervaise de Chazot, chargée du réseau hydrique. Il ne reste ensuite qu'à soustraire le poids des pots à vide pour avoir le taux d'humidité. Et à partir de cette teneur en humidité, on va les classer dans des sensibilités moyennes, fortes ou très élevées. Des données qui vont permettre d'évaluer le danger feu de forêt. L'ONU lance un SOS mondial sur la montée des eaux dans le Pacifique. Dans le village de Serua, dans les Fidji, les habitants sont confrontés au choix de déménager ou non en raison de la montée des eaux de l'océan Pacifique. L'urgence est telle que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un énième cri d'alarme au sujet de la montée des eaux dans le Pacifique. Les Tuvalu pourraient être entièrement submergées. Les îles du Pacifique, faiblement peuplées, peu dotées en industrie lourde, rejettent collectivement moins de 0,02% des émissions mondiales annuelles de gaz à effet de serre. Mais ce vaste ensemble d'îles volcaniques et d'atolls coralliens de basse altitude est menacé par cette montée des eaux. Les populations, les économies, les écosystèmes de toute la région sont fortement touchés par les effets en cascade. Il est de plus en plus évident que ces îles vont manquer de temps pour enrayer la tendance. Au Tuvalu, les terres émergées sont déjà si réduites que les enfants investissent le tarmac de l'aéroport international comme terrain de jeu. Selon les experts, même en cas de hausse modérée du niveau de la mer, les Tuvalu pourraient être entièrement submergés d'ici 30 ans. Les catastrophes se succèdent et nous perdons la capacité de reconstruire, de résister à un nouveau cyclone ou à une nouvelle inondation. Dit-on là-bas. Le niveau des mers s'est accru de quelques 15 cm dans certaines zones au cours de ces 30 dernières années. Tout va plus vite que prévu. Les terres s'assèchent, disparaissent sous les eaux. Or, les pays riches réduisent leurs efforts financiers et refusent l'accueil. La détresse des pays du Pacifique a pu être ignorée par le passé, notamment du fait de leur isolement et de leur moindre poids économique. Mais pour les chercheurs, la région est considérée comme le révélateur de ce qui pourrait survenir dans d'autres parties du monde. Le changement climatique constitue la principale menace en matière de sécurité. Les nations du Pacifique sont engagées dans un combat pour leur survie, et mettre un terme à la pollution du climat est essentiel pour leur avenir. Tout s'accélère et pourtant, on s'habitue. Oui, on s'habitue. Rien ne vient troubler nos habitudes. Nous refusons d'aborder le long terme. Cet été, vous avez pu constater, si vous êtes Montpelliérain, que la plage du Grand Travers avait rangé ses boutiques. Dès l'entrée dans le bus de la navette des plages, vous étiez prévenu. Il n'y a rien là-bas. Car oui, il n'y avait que la plage, la mer et le sable fin. Et retrouver la place de la plage, comme les dunes qui grandissent, n'était-ce pas, après tout, un énorme souvenir et un énorme plaisir. Et pour préserver ce qui reste de plage face à la gourmandise de la mer qui monte, paillotes et matelas de plage avaient effectivement disparu en vertu de la loi littorale. Alors, un agenda qui sera très bref, parce que nous aurons l'occasion, bien sûr, de connaître davantage les grands rendez-vous dans les mois qui viennent. Mais simplement, je vais vous en donner deux, qui sont des rendez-vous avec la mer. Le 24 et le 25 septembre, Dunkerque, port du futur, après 7 l'an dernier. Donc, tout se reporte sur le nord de la France. Hein, et en même temps, nous en reparlerons puisque la centrale de Gravelines, la centrale nucléaire de Gravelines, qui était la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, voit son débat public rouvert le 14 septembre. Nous y serons en conférence de presse, en voyage de presse plutôt, pour voir où en sont aujourd'hui les réparations et la mise aux normes de cette centrale. Et on pourra tester à cette occasion justement les capacités de Michel Barnier face au nucléaire, puisque c'est lui qui fut un des instigateurs du débat public. Et nous verrons comment sera conduit le débat public sur la centrale de Gravelines. Ensuite, les 4 et 5 novembre, auront lieu le Salon du Littoral à la Grande Morte. Et là, on redescend bien sûr vers le sud. Je voulais également vous parler d'un livre lu pendant les vacances et que je vous conseille réellement. Il s'agit de L'Entre-deux-Mondes d'Olivier Norek. Norek a fait un ouvrage qui est un peu un thriller, qui est un peu un livre policier. Enfin, je ne sais pas comment le classer. Mais en tout cas, c'est un extraordinaire reportage sur ce qu'est, ce que fut et ce que sera la jungle de Calais et le problème auquel sont confrontés aujourd'hui tous les migrants qui se retrouvent dans cette zone.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.